Chers frères et sœurs, bonjour et bonne année. Bien sûr, l'exercice de la première, du premier dimanche de l'année, c'est de parler de la devise de l'année. Vous l'avez vu à l'entrée, je pense que vous l'avez prise peut-être, sinon la voici et vous la prendrez à la sortie. Jésus doit prendre de plus en plus de place. Jésus doit prendre de plus en plus de place. Cette phrase résonne peut-être, à certaines oreilles en tout cas, comme un vœu de conquête, que le règne de Jésus s'étende, que le royaume de Dieu s'étende de plus en plus dans ce monde. Il y a par exemple un chant qui dit « Couvre ce pays de ta gloire ». Alors, est-ce que c'est cela que ce verset que je viens de lire, ou cette partie de verset veut dire ? Certains, peut-être, penseront autrement et diront « Il y a un goût dans cette phrase de radicalisme, de plus en plus de place, un goût de négation des personnes ». Surtout si on lit la suite dans le verset qui n'est pas imprimé, qui n'est pas donné, et que moi, je prenne de moins en moins de place ou que je diminue. Y a-t-il un risque que toute notre personne, que chacune, chacun, ne se résume que dans le nom de Jésus-Christ ? Est-ce que c'est cela que cette phrase veut dire ? Que nos caractères, nos spécificités, nos différences soit recouvert, soit écrasé par ce Jésus qui prendrait toute la place dans notre vie. Un peu comme un lavage de cerveau. L'une et l'autre de ces lectures ont du vrai, à vrai dire. Nous souhaitons ardemment, il est vrai, que de nombreuses personnes connaissent la joie de vivre avec Jésus-Christ, de vivre la foi en Jésus-Christ. Nous souhaitons que nos églises grandissent, que l'évangile progresse dans le monde. Cela ne veut pas dire que nous pensons à une conquête politique ou dominatrice. Vous vous souvenez de ce, je crois que c'était l'Express, mais je dis peut-être une bêtise, j'avoue que j'ai oublié de vérifier, qui titrait sa page de couverture « Les évangéliques à la conquête du monde », où il y a même un livre titré ainsi. Certes, nous ne sommes pas à vouloir que le monde soit dominé politiquement par notre foi ou par notre Seigneur, ou du moins aujourd'hui. Peut-être qu'un jour, lorsque le règne de Dieu arrivera, ce sera différent, mais aujourd'hui, c'est différent aussi. Nous souhaitons ardemment que tout notre être, même s'il n'est pas question d'un lavage de cerveau, d'une annihilation de notre personne, nous souhaitons que tout notre être soit... Et pour modèle, notre comportement, nos paroles, et pour modèle Jésus-Christ. Nous souhaitons être des imitateurs et des imitatrices de Jésus-Christ, comme Paul lui-même l'est et demande à ses lecteurs de Corinthe de l'être. Bon, ceci dit, il est temps de voir maintenant la phrase que nous avons choisie pour la devise 2018 dans son contexte. C'est Jean-Baptiste qui dit cela, c'est rapporté dans le troisième chapitre de l'évangile de Jean, et ce récit n'est rapporté que par Jean dans son évangile. Ce n'est pas le baptême de Jésus qui est mentionné dans les autres évangiles aussi, et qui est notre récit. C'est un épisode après le baptême de Jésus. Alors c'est un épisode dont on parle assez peu, à vrai dire, puisque c'est le lieu où il est raconté que Jésus lui-même baptisait. Alors, nous avons ça au chapitre 3, donc, à partir du verset 22. Je lis le verset 25. « Quelques disciples de Jean se mettent à discuter avec un autre juif. Ils parlent de la façon de prendre... se rendre pur, selon la coutume. Ils viennent trouver Jean et lui disent « Maître, de l'autre côté du Jourdain, il y avait quelqu'un avec toi. » Et là, il mentionne Jésus. « Tu as donné ton témoignage sur lui, Eh bien, maintenant, il baptise et tout le monde va le trouver. » Jean leur répond, « Personne ne reçoit un pouvoir sauf si Dieu le donne. Vous-même, vous êtes témoins que j'ai dit, « Je ne suis pas le Messie, mais je suis celui qui a été envoyé devant lui. Celui qui a la mariée, c'est le marié. » Alors là, il s'agit des coutumes de mariage que Jean va utiliser pour illustrer son propos. Mais l'ami du marié, c'est ainsi qu'il se qualifie, le marié dans cette illustration étant Jésus, mais l'ami du marié reste près de lui, il l'écoute et il est tout joyeux d'entendre la voix du marié. « Je suis donc dans la joie et maintenant ma joie est complète. » Lui, Jésus, doit prendre de plus en plus de place et moi de moins en moins. Jean souligne ainsi que Dieu est souverain, que lui-même est le précurseur de Jésus-Christ, le Messie, et qu'il est comblé, qu'il est heureux en voyant Jésus venir, qu'il ne voit pas en Jésus un concurrent qui lui prendrait sa place, mais qu'il voit celui qu'il avait annoncé et qui vient prendre sa propre place. Il est normal que Jésus prenne la place qui lui revient et que Jean lui cède la place en tant que précurseur. Alors, les traducteurs ont eu un petit peu de difficulté à traduire les verbes « grandir » et « diminuer ». Je me suis amusé à comparer. Alors, il y a « croître » ou « grandir » chez quatre traductions. S'il y en a qui veulent que je les cite, peut-être je le ferai à la demande tout à l'heure à la sortie du culte. « Croître »,« grandir »,« décroître » ou « diminuer ». Ou « devenir de plus en plus grand » et de plus en plus petit. La traduction que nous avons choisie, c'est Parole de vie, qui dit que Jésus prenne de plus en plus de place et Jean de moins en moins. La Bible en français courant dit que l'influence de Jésus grandisse et que celle de Jean diminue. Donc il ne s'agit pas de grandir dans ce contexte-là en taille, mais plutôt en influence, en place dans la société. Revenons à Jean-Baptiste avant d'aller plus loin. Qui était-il ? Trois choses, pour le définir brièvement. On ne sait pas grand-chose de lui, je ne vous dirai d'ailleurs pas tout, mais qu'est-ce qu'il ressort de qu'est-ce qui est l'essentiel ? Jean avait un style de vie particulier. Nous savons tous, pour l'avoir appris à l'école du dimanche, qu'il ne s'habillait pas chez Dior, hein, mais qu'il ou chez H&M, mais qu'il s'habillait chez les chameaux. Il était habillé d'un vêtement de poil de chameau, nous dit-on. Il se nourrissait de sauterelles et de miel, et les théologiens discutent. J'ai lu des commentaires tout à fait opposés hier soir qui disaient « Bon, le miel et les sauterelles, c'est vraiment de la nourriture d'un ascète, vraiment quelqu'un qui veut pas se livrer, se laisser aller au plaisir de la vie. » Mais quelqu'un d'autre disait « Ouais, mais les sauterelles, à cette époque au Moyen-Orient, c'était un mets très recherché, on le mangeait avec du miel qui était également très, très bon. » Bon. En tout cas, c'est comme ça qu'il est identifié, Jean-Baptiste, par un style de vie qui tranchait visiblement, parce que sinon on n'aurait pas pris soin de le décrire, qui tranchait avec celui de tous les jours de monsieur ou de madame tout le monde. Jean se donnait ainsi à entendre comme un prophète. Et certains des traits de description, des descriptions qui sont faites de lui renvoient au prophète Élie. C'est d'ailleurs un des prophètes cités à d'autres endroits dans les évangiles. On attendait un retour du prophète Élie. Et Jésus dira d'ailleurs que ce retour a été fait par Jean le Baptiste. Jean était donc un prophète. Il avait une parole prophétique, il dénonçait le mal et parfois avec agressivité, puisqu'il a commencé un des discours qui est rapporté de lui. Il commence par « engeance de vipère ». Demain matin, si vous allez retrouver vos collègues, ne leur dites pas ça. Bonjour, engeance de vipère. Il avait un verbe haut et parfois acerbe. Et Jean annonçait, bien sûr, nous l'avons dit, la venue de son successeur, du Messie, dont il n'était que le précurseur. Je vous propose pour 2018 d'être des Jean, des Jeannot, ou des Jeanne. J'ai prévenu Jeanne ce matin. Ou des Jeannette. Nous avons à suivre son exemple sur plusieurs points. Alors, au niveau vestimentaire, peut-être pas. Au niveau alimentaire, non plus. Mais sur bien d'autres points, oui. Soyons des précurseurs de Jésus auprès des personnes qui nous entourent, auprès de nos familles, de nos amis, de nos voisins, de nos collègues, auprès du monde tout entier. Que beaucoup de personnes, après avoir connu l'un de nous, après nous avoir croisés, découvrent celui que nous annonçons, ce Jésus qui est le Messie. Développons au moins deux qualités de Jean-Baptiste. La première, c'est la conviction. J'ai un petit peu souligné négativement l'agressivité de certains discours de Jean-Baptiste. Il n'y avait pas que des discours agressifs. Mais cela traduit le fait qu'il était convaincu, qu'il avait un enthousiasme énorme pour jouer son rôle de simple précurseur. Il avait une conviction entière. Et avec cela, il faisait preuve d'humilité. Cette petite phrase que nous avons prise pour devise, dont nous n'avons pris que la première partie pour devise, le montre. Si Jésus est là, ce n'est pas de la concurrence que Jean-Baptiste va craindre, mais c'est au contraire celui pour lequel il aura plaisir à diminuer, parce que Jésus, lui, va prendre sa place. Conviction et humilité sont deux qualités qu'il est difficile de conjuguer. La conviction peut très vite déboucher sur l'orgueil. L'humilité peut très vite déboucher sur la mollesse de notre parole. Alors, premier élément que j'ai souligné de Jean-Baptiste, le style de vie. Les poils de chameau et le miel et les sauterelles. Alors justement pas, ne soyons pas des imitateurs de ce qui n'était que la surface. Le vêtement ou la nourriture, notre foi chrétienne ne tient pas à une longueur de tissu, à une longueur de cheveux ou à une longueur de barbe. Et vous voyez à quoi je fais allusion. Elle consiste en une vie fondamentalement réorientée, visitée par l'Esprit Saint, renouvelée par lui, qui s'exprime peut-être par l'apparence, mais surtout par le comportement et les relations humaines. Si nous voulons, par notre style de vie, être des précurseurs de Jésus dans les cœurs de ceux qui nous entourent, ayons une vie qui honore Dieu. Si je veux que Jésus prenne plus de place dans le cœur de mon voisin, dans les pensées de mon collègue, alors je vais éviter les médisances. Je vais savoir écouter et donner mon attention. Je vais proposer mon aide. Je vais être maître de moi. Je vais savoir travailler en équipe. Et tant d'autres choses. J'ai en mémoire le témoignage d'un homme, je ne sais absolument plus qui c'est, donc je me suis dit en me souvenant de cela, peut-être que je vais, peut-être la personne sera dans la salle, je ne sais plus qui c'est. C'est un homme qui prenait sa retraite et qui, au moment de sa prise de retraite, vous savez, il y a toujours un pot de départ et une petite allocution et puis un cadeau et puis et quelques témoignages. Et cet homme, au moment de sa départ à la retraite, avait fait part de sa foi chrétienne, alors qu'avant, il n'en parlait pas. Et le retour de ses collègues était « Ah, c'est donc ça !» L'explication, le secret que cet homme avait pour avoir un tel comportement au travail. D'être si agréable, d'être si coopératif, d'être ce collègue avec lequel on avait plaisir à discuter et à travailler. Cet homme a été, à sa manière, le précurseur ou un précurseur de Jésus auprès de ses collègues, par sa manière de travailler, par son style de vie, par ses poils de chameau et ses sauterelles actualisées. Notre parole ensuite. J'ai cité les paroles prophétiques de Jean le Baptiste, dénonciatrices du mal, parfois agressives, nous l'avons dit, et aussi encourageantes pour le bien. Je l'ai dit tout à l'heure, ne nous bornons pas à qualifier les gens d'engeance de vipères. La société actuelle est très contrastée en matière de relations humaines. Vous avez certaines personnes qui en viennent à l'insulte très vite. Vous les regardez de travers, vous êtes abreuvé, vous pouvez enrichir votre dictionnaire personnel de toutes sortes de vocabulaire. Et il y a aussi le politiquement correct. Ces choses qu'on doit toujours dire dans certains milieux de manière édulcorée. Et nous naviguons entre ces différents modes de communication dans notre société. Comment nous, chrétiens, allons-nous trouver le bon ton pour exprimer notre avis sur une question de société, par exemple? Comment allons-nous faire partager notre foi? De quelle manière? Comment allons-nous être des précurseurs de Jésus-Christ auprès des gens? Leur donner envie de lire ses enseignements dans les évangiles? Voici le défi que nous lance cette devise. Si nous voulons que Jésus prenne de plus en plus de place dans les cœurs de celles et ceux qui nous entourent. Le samedi 30 décembre, l'association Accès, dont je suis président, a connu un drame. Un des salariés, chef de service, est décédé par accident. Un travailleur social excellent, rayonnant de paix et d'altruisme. Comment, moi et quelques frères et sœurs dans la foi, dans ce cadre, allions-nous trouver les bonnes paroles, celles qui étaient adéquates en tant que chrétiens? Comment l'aumônerie allait-elle accompagner ce décès qui a fait violence à toute l'association? Comment allions-nous trouver les mots justes, clairs, porteurs de paix, sans tomber dans la démagogie? Nous avons là aussi à être des précurseurs de Jésus auprès des personnes. Nous avons à être celles et ceux qui modestement sauront ouvrir une voie que Jésus pourra emprunter, selon le vœu, bien sûr, des personnes. Voilà, par cette manière d'être, par sa manière d'être, par sa manière de parler, Jean-Baptiste a été le précurseur de Jésus-Christ. Et il a été positivement en annonçant Jésus-Christ par ses paroles. Il a proclamé en désignant Jésus, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Il a baptisé Jésus et ce baptême n'avait pour sens que celui de l'entrée de Jésus dans son ministère public. Ce n'était évidemment pas un baptême de repentance pour Jésus. Ceci nous amène à l'idée de proclamation. Si nous voulons être des Jeannot et des Jeannette, des Jean et des Jeannes, imitons Jean-Baptiste dans sa proclamation de la venue de Jésus-Christ, en étant des proclamateurs, nous, de l'Évangile. Comme Jean a annoncé la venue de Jésus, ainsi nous annonçons l'appel que Jésus adresse à tous les hommes de se donner à lui. Il s'agit là de la proclamation de l'Évangile, non seulement en acte, mais aussi en parole. C'est une responsabilité individuelle et communautaire que nous avons là d'évangéliser, de proclamer, de dire ce que Dieu a fait pour nous et ce qu'il peut faire pour tant d'autres hommes et tant d'autres femmes. Comment accomplissons-nous cette mission ? Comment le ferons-nous en 2018 ? Quelle place cette proclamation va-t-elle occuper dans nos journées, dans nos semaines, dans nos emplois du temps ? Sommes-nous motivés pour accomplir cette mission de proclamation ? Disons-nous, et là je transpose un petit peu la parole de Jean-Baptiste dans notre contexte, disons-nous comme lui que Jésus doit prendre de plus en plus de place, c'est-à-dire que plus de personnes trouvent auprès de lui la joie du pardon de Dieu ? Avons-nous le désir de voir notre Église augmenter, grandir, être augmentée de personnes qui, comme nous, auront compris la beauté de l'Évangile et sa force de vie ? Soyons des précurseurs, bavards, communicatifs. L'Évangile de Matthieu rapporte que Jean prêchait dans le désert. C'est devenu une expression en français, quand quelqu'un prêche dans le désert, ça veut dire qu'il raconte des tas de choses, peut-être très intéressantes, mais que personne ne l'écoute. C'est pas du tout le sens de l'histoire de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste prêchait dans le désert, oui. Il n'était pas à la place, sur les places des villes. Il était dans le désert de Juda, nous est-il raconté. Mais dans le désert de Juda, il y avait des foules qui allaient le voir. Et quand on dit prêcher dans le désert, ça veut dire s'éloigner du quotidien, oui, prêcher en prenant le temps de réfléchir à des choses plus fondamentales que ce qu'on va manger à midi, oui. Mais ça ne veut pas dire que personne n'écoute, au contraire, dans l'histoire de Jean-Baptiste. Chers amis, je vous propose que notre Église soit le désert de Juda. C'est-à-dire que des gens viennent y écouter l'Évangile et que nous soyons des gens et des Jeanne Baptiste qui, en plus on est une église baptiste, hein, c'est quand même, c'est bienvenu, hein, et des gens et des Jeanne comme Jean le Baptiste qui proclament la beauté de l'Évangile. Que des gens nombreux viennent y écouter la parole de Dieu dans le désert de Juda. Et que prêcher dans le désert, ça veut dire que des gens viennent écouter. Jean prêchait dans le désert. Loin du poids du quotidien, loin des soucis ou même des joies, trop liés aux circonstances, loin des obligations du travail, du foyer, qu'on en vienne écouter ici l'Évangile dans toute sa force, dans toute sa lumière, dans toute sa beauté. Soyons Jean, soyons Jeanne, je conclus, par notre style de vie, notre comportement, par nos paroles, nos relations, en proclamant qui est Jésus, de sorte que le royaume de Dieu avance. Pour cela, c'est avant tout dans nos cœurs. Je le disais tout à l'heure en craignant qu'il y ait un lavage de cerveau, mais non. Si Jésus prend plus de place dans nos cœurs, nous n'en serons que plus nous-mêmes. Nous n'en serons que plus les créatures que Dieu a faites pour être en relation avec lui. Que son enseignement, que l'enseignement de Jésus, si nous voulons qu'il prenne plus de place, fonde de plus en plus nos actions et nos comportements. Que l'exemple qu'il a donné nous influence de plus en plus. Que Jésus prenne de plus en plus de place dans notre vie personnelle, dans notre vie communautaire. Et nous pourrons alors espérer, prier, agir pour qu'il prenne plus de place aussi dans les cœurs de celles et ceux qui nous entourent. Amen.